Vous êtes avec SBS French.
À la une de l'actualité de ce jeudi 5 mai 2022, en Australie, le pacte sécuritaire récemment signé entre les îles Salomon et la Chine s'invite dans la campagne électorale. Scott Morrison et Anthony Albanese ont chacun pris position sur cette question. En Ukraine, l'offensive russe se poursuit de Mariupol à Kharkiv, tandis que les Européens envisagent pour leur part d'adopter un nouveau train de sanctions, sanctions qui pourraient viser entre autres le patriarche Kirill, chef de l'église orthodoxe russe et soutien majeur de Vladimir Poutine. Enfin, en France, les Insoumis ont réussi leur pari de rassembler toute la gauche derrière leur bannière pour les élections législatives après la signature hier soir d'un accord avec le Parti socialiste. Les questions internationales font rarement l'objet de débats durant les campagnes électorales, mais ça n'est pas le cas cette année en Australie, où d'après une enquête publiée aujourd'hui par le Sydney Morning Herald, 72% des Australiens se disent inquiets, voire très inquiets, de la signature d'un pacte sécuritaire entre les îles Salomon et la Chine. Ce sondage paraît au lendemain de déclarations du Premier ministre salomonien, Manasseh Sogavare, qui indiquait qu'il n'appréciait pas que les Australiens considèrent son pays comme leur précaré. Interrogé sur ce sujet ce matin, Scott Morrison a assuré que les relations entre les îles Salomon et l'Australie ne s'étaient pas détériorées. Il a même ajouté que l'Australie restait le partenaire sécuritaire privilégié des îles Salomon, et ce, alors que ce pays a donc signé un accord sécuritaire avec la Chine.
I am following very carefully the advice that I get from our security intelligence agencies in how we are responsibly managing the issues in relation to this matter. That is exactly what I'm doing. We have always been there for the people of the Solomon Islands, and we always will be. That doesn't mean that prime ministers will always agree. I have a different view to him about the role of Russia invading Ukraine. So there's a difference of view. I have had contact with him in the last few months.
De son côté, le chef de file des travaillistes Anthony Albanese s'est lui engagé à réparer cette relation diplomatique avec Honiara, mais il a aussi critiqué la façon dont le gouvernement actuel avait géré cette relation ces derniers mois.
The fact that the Prime Minister hasn't picked up the phone to Prime Minister Sogavare says an enormous amount. We've outlined a comprehensive Pacific plan. It's about increased aid. It's about dealing with climate change, including hosting a COP along with the Pacific Island nations. It's about people-to-people relations, including parliamentary visits. It's about making sure that we have a migration program.
Sur un tout autre sujet, la ville de Melbourne s'est réveillée ce matin avec un double meurtre. Deux hommes ont effectivement été tués après avoir été attaqués au couteau vers 5h du matin dans le quartier de Brunswick. Une femme a été arrêtée par la police quelques minutes plus tard alors qu'elle se trouvait à bord d'un tramway dans le quartier de Carlton. En Ukraine, les combats continuent de faire rage, en particulier dans la ville portuaire de Mariupol où plus de 300 civils se sont réfugiés dans l'aciérie Azovstal. Le président Zelensky a indiqué être parvenu à un accord avec les Russes pour la mise en place d'un cessez-le-feu d'une durée de 3 jours. Il a par ailleurs appelé les Nations Unies à les aider à évacuer les dernières personnes présentes sur place.
The second phase of our evacuation operation in Mariupol ended today. 344 people were successfully evacuated from the city and the outskirts. That's how many people left today for Zaporizhzhia. Our team is preparing to meet them in the same way as over 150 people who were successfully transported from Azovstal. All of them will get the necessary assistance. All of them will be treated in the most supportive manner by our state.
Dans le même temps, le conflit se poursuit dans le reste du pays, notamment à Kharkiv, où les forces ukrainiennes sont parvenues ces derniers jours à faire reculer la ligne de front et même à libérer quelques villages alentours. Ceci étant dit, la vie sur place est loin d'être revenue à la normale. C'est ce qu'a expliqué Maria Avidiva. Elle est directrice de recherche à l'European Expert Association, à nos confrères de Radio France Internationale. Elle vit à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine.
Le Donbass reste leur principale cible. Les combats les plus intenses se déroulent là-bas en ce moment, vers Izioum et près de plus petites villes. Mais les militaires ukrainiens continuent à défendre Kharkiv parce que ce n'est pas terminé ici. Après cette attaque sur le Donbass, il est possible que l'offensive bascule sur Kharkiv, car la ville est très proche de la frontière russe et parce que les Russes concentrent en ce moment des troupes à Belgorod, qui est la grande ville la plus proche côté russe, et elle est à seulement 40 km de Kharkiv. Ils vont essayer de conquérir le plus de territoire possible pour montrer un semblant de victoire, de succès au peuple russe. Parce que jusqu'ici, les forces russes n'ont réussi à accomplir aucun des objectifs annoncés par Vladimir Poutine au mois de février.
Et les Européens envisagent, eux, d'adopter un nouveau train de sanctions, le sixième depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Parmi les mesures envisagées, un embargo progressif sur le pétrole russe, l'exclusion de 3 nouvelles banques russes du système interbancaire SWIFT, ainsi que des sanctions visant 58 personnalités, parmi lesquelles le chef de l'église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, un allié clé de Vladimir Poutine. Nicolas Feldman, pour RFI, nous dresse son portrait.
23 avril dernier, le patriarche Kirill célèbre la messe de la Pâque orthodoxe à Moscou. La télévision russe montre au premier rang Vladimir Poutine, un cierge à la main. Le patriarche Kirill et Vladimir Poutine, c'est l'histoire de deux destins liés au service d'une même ambition, faire de la Russie une puissance dominatrice et conservatrice, les sermons de l'un s'alignant sur les discours politiques de l'autre. Comme le président russe, le patriarche s'affiche en pourfendeur de l'homosexualité. Il justifie la répression d'opposants ou de médias indépendants, mais à 75 ans, c'est son soutien de ces dernières semaines à l'offensive russe en Ukraine qui dérange du côté de l'Union européenne. Le mois dernier, le patriarche appelait les Russes à faire corps, je cite, pour combattre ses ennemis extérieurs et intérieurs. Un peu plus tôt, il parlait d'un combat contre les forces du mal, opposé selon lui à l'unité historique entre la Russie et l'Ukraine. Si le patriarche Kirill venait à entrer sur la liste noire des 27, il serait alors interdit d'entrer dans l'UE et tous ses avoirs seraient gelés.
On prend maintenant la direction de l'Afrique, plus précisément de la Guinée, où l'ancien président Alpha Condé ainsi qu'une vingtaine d'autres ex-dignitaires du régime sont visés par des poursuites judiciaires. Ils sont accusés d'assassinat, d'actes de torture et d'enlèvement, des faits qui se seraient déroulés lorsque Alpha Condé avait tenté de modifier la constitution pour briguer un troisième mandat présidentiel. Explication Sébastien Nemetz pour RFI.
La répression des manifestations qui avaient entouré ce référendum permettant de modifier la constitution pour qu'Alpha Condé reste au pouvoir. La crise avait entraîné des dizaines de morts. Le collectif FNDC, le Front National de Défense de la Constitution, avait mené pendant des mois ce mouvement de colère. C'est lui qui a porté plainte contre Alpha Condé et 26 anciens hauts responsables civils et militaires de son régime. Parmi eux, on trouve l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura, l'ex-ministre de la Défense, Mohamed Diané, le général en dessous Kamara, qui était directeur général de la police à l'époque, etc. Dans ce groupe, certains sont déjà visés par des poursuites judiciaires, mais pour des faits présumés de détournement de fonds. Là, cette fois, on est au pénal avec des accusations de meurtre, disparition forcée, torture, agression sexuelle, enlèvement ou encore séquestration. Le procureur lance donc une enquête avec déjà des éléments de preuve, images, vidéos fournies par le FNDC. Il se base aussi sur des rapports d'ONG internationales comme Amnesty et Human Rights Watch. Le magistrat évoque par exemple les propos belliqueux d'Alpha Condé et son entourage lors de meetings politiques, appelant explicitement les populations à l'affrontement. Il cite aussi l'impunité totale dont ont bénéficié les forces de sécurité.
Quelques jours après l'Australie, c'est la Réserve fédérale américaine qui annonce relever son taux d'intérêt directeur pour combattre une inflation galopante. Une hausse d'un demi-point de pourcentage, la plus forte enregistrée depuis l'an 2000. La Fed a par ailleurs annoncé qu'elle allait commencer à réduire son gigantesque endettement, plus de 13 milliards de dollars australiens. Des décisions inédites liées donc à la hausse de l'inflation au plus haut depuis 40 ans, d'après le président de la Fed, Jerome Powell.
Inflation is much too high, and we understand the hardship it is causing. And we're moving expeditiously to bring it back down. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. The economy and the country have been through a lot over the past 2 years and have proved resilient. It is essential that we bring inflation down if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all.
États-Unis, toujours, le pays est confronté à une possible déflagration, puisqu'il y a quelques jours a été divulguée une possible remise en cause par la Cour suprême d'un arrêt majeur, la décision de justice Roe contre Wade, une décision datant de 1973 et qui a permis la légalisation de l'avortement aux États-Unis. Le président Joe Biden a réagi à ces révélations. Il estime que cette décision, si elle devait effectivement être remise en cause, pourrait entraîner derrière la détérioration d'autres droits et de protections garanties par la Constitution.
What happens if you have a state change the law saying that children who are LGBTQ can't be in classrooms with other children? Is that legit under the way that the decision is written? What are the next things that are going to be attacked?
En France, Jean-Luc Mélenchon a réussi son pari. Après le ralliement des écologistes et des communistes il y a quelques jours, c'est le Parti socialiste qui a annoncé mercredi soir s'être mis d'accord avec les Insoumis. D'accord pour afficher un front uni de gauche dans le cadre des élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin prochains. L'accord conclu entre les Insoumis et les socialistes porte à la fois sur le partage des circonscriptions, mais aussi sur le programme. On fait le point avec Aurélien Devernois pour RFI.
Trouver le bon ton, la formulation parfaite pour ne froisser personne, ni chez les insoumis, ni chez les socialistes. Un travail d'orfèvre que les négociateurs des deux camps ont peaufiné jusqu'au bout. Exemple, l'Europe. L'accord programmatique trouvé ce mercredi ménage les sensibilités, on désobéit au traité côté LFI, on déroge de manière transitoire au PS. Mais l'objectif reste le même, mettre fin au cours libéral et productiviste de l'Union européenne. Dans leur communiqué, les deux parties admettent leurs divergences, mais préfèrent donc voir leurs points communs. Les insoumis ont ainsi laissé une large part à des thèmes chers aux socialistes. L'école, le droit de choisir sa fin de vie, la sanctuarisation du budget de la culture. Le PS voit aussi un mot important à ses yeux apparaître sur les questions de République et de laïcité, l'universalisme. Les socialistes se convertissent quant à eux à la 6ème République, au retour à la retraite à 60 ans, au blocage des prix des produits de première nécessité. Un équilibre qui devra toutefois convaincre les cadres du PS. La direction se réunit ce mercredi soir avant la convocation du Conseil national du parti. Jeudi.
Et pour conclure ce bulletin, on jette maintenant un œil à la météo du jour en Australie. 22 degrés du soleil aujourd'hui à Perth. En revanche, il pleut à Adélaïde où le thermomètre affiche péniblement 15 degrés. Même météo Mossad et même température prévue aujourd'hui à Melbourne. À Sydney, en revanche, il fait 23 degrés. Le temps est un peu nuageux également. On s'attend par ailleurs à des averses. 27 degrés à Brisbane, où le temps est pluvieux. Et le thermomètre monte jusqu'à 35 degrés aujourd'hui à Darwin, où il fait très beau.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.